Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, un zoo mondial pas comme les autres. Mieux manger aide à ralentir le déclin de la mémoire. Et télé-réalité, un amour impossible au Québec. Bonne écoute.
Un zoo mondial pas comme les autres. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir. Big Brother nous regarde parce que nous, les humains, regardons Big Brother. L'émission a été lancée aux Pays-Bas en 1999 et est vite devenue un phénomène planétaire. Une version américaine a suivi dès l'année suivante, toujours avec la même formule simplissime et un tantinet orwellienne, d'enfermer des concurrents pour les observer 24 heures sur 24. La franchise a ensuite essaimé dans une soixantaine de pays et régions pour plus de 500 saisons au total. Les comptes cumulés en plus de deux décennies de succès totalisent des milliards de personnes scotchées aux écrans et des milliards de beaux dollars de profits. Ce succès planétaire phénoménal s'explique en partie par la malléabilité de la formule, capable de s'adapter aux particularités culturelles visibles jusque dans les décors. Aux États-Unis, les participants ont leur panier de basket. Au Brésil, il faut une salle de bain collective. La déclinaison « célébrité » produite au Québec depuis 2 ans se tourne dans une résidence de style château de banlieue néo-traditionnel simili-renaissance. Du pur 4-5-0 ostentatoire, quoi. À Dubaï, les divisions de l'espace séparent nettement les hommes et les femmes, en plus de leur fournir un local de prière. Allah aussi nous regarde. Le casting s'adapte aux réalités locales. Quand Big Brother est apparu en Afrique du Sud en 2001, la production a mis en compétition une bande multi-ethnique qui aurait été impensable une décennie auparavant. Après des remarques racistes lancées par des concurrents au cours des années précédentes, Big Brother Beach House de CBS a concocté l'an dernier le casting le plus diversifié de l'histoire de la production, comprenant des non-blancs, POC, et 4 membres de la communauté LGBTQ+. Certains coins du monde ont carrément résisté à l'invasion. En Chine et au Japon, la formation de rapports amoureux éphémères par appât du gain choque trop les mœurs. En Russie, l'habitude de l'arbitraire et de la magouille dans la vie courante a favorisé le développement d'une production différente, DOM 2, où les règles peuvent changer sans préavis pour les participants qui ne sont d'ailleurs pas enfermés. La production, lancée en 2004, a été arrêtée en 2021 après 16 années de diffusion continue, soit près de 6000 épisodes au total, un record mondial. Étudier la télé-réalité dans le monde comporte un risque, celui de réduire les cultures à un ensemble de stéréotypes enfermant chaque pays dans une différence radicale, avertit toutefois Nathalie Nadeau-Albertini dans un article sur les déclinaisons du genre, écrit pour la Revue des médias de l'Institut national de l'audiovisuel, INA, de France. Dans le cas de Big Brother, il est intéressant de souligner qu'à partir d'une matrice commune acceptée par de nombreux pays, on arrive à des cas où ce sont les téléréalités elles-mêmes qui ont transgressé radicalement les codes de l'émission et justifié cette transgression en revendiquant leurs différences culturelles. Personnages et personnes. Madame Nadeau-Albertini s'y connaît. Elle a défendu en 2011 à l'École des hautes études en sciences sociales un doctorat en sociologie sur le contenu et la réception numérique des émissions de télé-réalité en France. Le savant travail a commencé des années auparavant, à la naissance du genre dans l'Hexagone. Elle avoue avoir eu de la difficulté à se trouver un directeur dans cette prestigieuse école. C'était un sujet qui était très tabou, dit-elle en entrevue au Devoir. Pour moi, la télé-réalité, c'est un récit qui repose sur un personnage, qui lui-même repose sur une personne, résume-t-elle. Dans une fiction classique, une fois le scénario écrit, vous cherchez des acteurs pour le tournage et éventuellement d'autres acteurs pour des adaptations. Dans une télé-réalité, vous déterminez les règles, les décors, les lieux de vie. Vous faites un casting, sauf qu'ici, la valeur du personnage, tout son potentiel narratif, dépend uniquement des personnes. Vous écoutez Un zoo mondial pas comme les autres, un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir. Cette réalité de la télé-réalité en fait une œuvre ouverte, donnant beaucoup de latitude aux producteurs et aux candidats. Le format malléable, déclinable à souhait, a permis à la France, comme à bien d'autres pays, de créer leur propre concept et des succès exportables à leur tour. Ici, on a Occupation double pour concurrencer Big Brother ou L'île de l'amour, puis Les chefs pour remplacer Masterchef. Là-bas, la faveur nationale revient à des émissions comme Koh-Lanta, 30 saisons, pour imiter la production d'aventure à la Survivor ou encore la bataille des couples, les Marseillais et les anges de la télé-réalité. Cette dernière joue sur le dédoublement en rassemblant des stars de productions différentes, comme Big Brother Célébrité rassemble des célébrités de second rang. Un mastodonte mondial. On y revient donc. Big Brother a été porté mondialement par la compagnie néerlandaise Endemol, fondée en 1994 par le producteur John de Mol, quasi-inventeur du genre, qui l'a rendu milliardaire. Endemol appartient maintenant au groupe français Banijé, dont le catalogue actif comprend environ 60 000 heures de production. La vice-présidente Jane Rimmer, qui dirige maintenant la branche canadienne de Banijé Wright, négocie la vente et l'achat de droits pour les productions dans les deux langues officielles. C'est elle qui a signé l'entente pour une version québécoise de Survivor qui apparaîtra cet hiver sur un écran près de chez vous. Elle explique ce succès Urbi et Orbi par l'attrait universel pour un divertissement organisé autour du rassemblement d'individus qui développent des relations en compétitionnant entre eux. La télé-réalité parle de ce que nous avons tous en nous comme êtres humains, dit-elle. Nous sommes généralement compétitifs. Nous aimons former des communautés. En général, nous n'aimons pas vivre isolés. Elle donne l'exemple de Lego Masters, qui met en compétition deux équipes de construction avec des mini-blocs. L'émission connaît déjà 18 versions dans le monde. Une autre émission, Blow Up, s'organise autour de la création de sculptures en balloon. Manger du prochain. Les tendances éclatées des dernières années vont dans tous les sens. Cuisine, célébrité, dating, mode, transformation corporelle et repoussent sans cesse les limites. RuPaul's Drag Race, depuis 2009, un empire dans l'empire des signes de l'époque, a été décrit comme ce qui rapproche le plus la culture gay du sport de compétition. Les participants de Sexy Beast 2021 se masquent et se costument en animaux mythiques pour flirter. Dans l'émission faussement puritaine Séduction haute tension 2020, les participants pétards doivent s'astreindre à une stricte chasteté. Alter Ego, première télé-réalité de l'intelligence artificielle, propose un télécrochet avec Avatar chantant en guise de personnage. Sans juger l'une ou l'autre des productions, Madame Reimer parle de caractéristiques communes aux productions actuelles. Elle cite le souci croissant du bien-être mental des candidats, sujet bien d'actualité ici après la mésaventure de la dernière saison d'Occupation double qui a mené au retrait de trois candidats accusés d'en avoir harcelé un autre. Nous sommes vraiment conscients de l'importance dans le monde actuel de protéger nos talents, dit-elle en citant encore la diversité et l'inclusion comme souci constant et la déclinaison multiplateforme des productions. Nous savons aussi que nos émissions doivent prêter attention à ce qui est culturellement et socio-économiquement important dans les différents territoires de diffusion. Le territoire canadien ne fait pas exception. Banijay vient d'acheter pour distribution Wild Cooks, chef de bois de la compagnie québécoise Toast Studio, qui lance 12 chefs dans la grande nature canadienne où ils doivent survivre et préparer un repas gastronomique à partir des éléments récoltés. Il y a plus étonnant encore. Travel with a Goat ne propose que ça. Un voyage de 4 jours d'un foodie d'un point A à un point B en compagnie d'une chèvre. La tension dramatique s'organise autour de la destination finale, un abattoir, où le carnivore devra décider s'il consomme ou non son nouveau compagnon carné. La production est faite pour susciter des réflexions et des discussions autour du traitement des animaux. Elle peut aussi un peu servir de métaphore à la télé-réalité elle-même. C'était « Un zoo mondial pas comme les autres », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir.
Mieux manger aide à ralentir le déclin de la mémoire. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 26 janvier 2023 dans la presse. Adopter de saines habitudes de vie peut ralentir le déclin de la mémoire qui accompagne le vieillissement, y compris chez les individus porteurs d'un gène qui augmente drastiquement le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer, démontre une nouvelle étude à laquelle a participé un chercheur de l'Université McGill. Une saine alimentation est l'habitude de vie qui a eu le plus grand impact sur la préservation de la mémoire. Suivait, dans l'ordre, la participation à des activités cognitives actives, une activité physique régulière, une vie sociale active, l'absence de tabagisme et le fait de n'avoir jamais consommé d'alcool. De plus, a dit le docteur Serge Gauthier, l'effet bénéfique de ces bonnes habitudes est cumulatif. Au lieu de se concentrer sur une seule et de chambouler complètement, par exemple, son alimentation, il est préférable d'apporter des améliorations modestes à 4 d'entre elles. La combinaison de facteurs est plus importante que juste un facteur. Alors ça ne sert à rien de faire de la gymnastique et de ne rien faire d'autre, a-t-il dit. Il faut 4 facteurs sur 6 pour avoir le maximum de protection. Cette étude est publiée au moment où la réduction de la consommation d'alcool fait la manchette au Canada et où la diminution du tabagisme est déjà un acquis, a poursuivi le docteur Gauthier. Il faut juste avoir peut-être un petit peu plus d'action sur certains des autres facteurs de protection, a-t-il ajouté. Les résultats découlent de l'étude pendant 10 ans de près de 30 000 habitants du nord, du sud et l'ouest de la Chine. Les participants étaient tous âgés de 60 ans et plus et avaient une santé cognitive normale au début de l'enquête. Les données ont montré que le déclin de la mémoire était moins prononcé chez les sujets dont le mode de vie était favorable ou même moyen, comparativement à ceux dont le mode de vie était défavorable. Pendant le suivi de 10 ans, écrivent les chercheurs, un mode de vie favorable a aussi été associé à un risque plus faible de progression vers un trouble cognitif léger ou vers la démence. Encore plus intéressant, les chercheurs ont constaté un effet protecteur même chez les sujets qui étaient porteurs du gène APOE-4, dont on sait qu'il augmente de manière très marquée le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Le gène qu'on retrouve chez environ 40% des patients atteints d'Alzheimer peut notamment intensifier l'impact d'autres facteurs de risque. Cette étude souligne donc une nouvelle fois, a dit le docteur Gauthier, que la génétique, même si elle demeure très importante, ne décide pas de tout, ce qui est très rassurant pour les gens qui ont une histoire familiale. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose de simple, a-t-il rappelé. Ce n'est pas chimique en plus, ce n'est pas dispendieux, c'est juste tenir compte de facteurs de protection. Psychologiquement, les Nord-Américains aiment mieux prendre une pilule que faire de l'exercice, mais il n'y en a pas de pilule. Et puis, comme on vient de le démontrer, les solutions les plus simples sont les meilleures. D'autant plus que l'adoption de bonnes habitudes de vie ne sera pas bénéfique seulement pour le cerveau, mais aussi pour la santé cardiovasculaire, a-t-il ajouté. La valeur ajoutée de l'interaction sociale qui peut se greffer à ces saines habitudes de vie n'est pas non plus à négliger. L'interaction sociale est aussi importante que l'activité, a dit le docteur Gauthier. Un club de lecture, c'est mieux que lire tout seul. Aller marcher avec des voisins, c'est mieux que marcher tout seul. Cuisiner avec un groupe communautaire, c'est mieux que cuisiner tout seul, même si c'est la même bouffe. Les chercheurs ne comprennent pas exactement les mécanismes responsables de l'effet protecteur observé, mais une réduction du risque cérébrovasculaire, une augmentation des réserves cognitives et un déclin du stress oxydatif et de l'inflammation pourraient être en cause. Les conclusions de cette étude ont été publiées par le prestigieux journal médical BMJ. C'était « Mieux manger aide à ralentir le déclin de la mémoire », un texte de Jean-Benoît Legault paru le 26 janvier 2023 dans la presse.
Télé-réalité, un amour impossible au Québec? Un texte de Annabelle Caillou, paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir. Il y a 20 ans, les grands réseaux de télévision québécois se lançaient dans un nouveau genre aussi aimé que méprisé, la télé-réalité. Depuis, les émissions se sont multipliées, fracassant des records de cotes d'écoute et gagnant petit à petit le cœur et le respect tant du public que des médias traditionnels. Mais entre les ratés, les controverses et la perte de vitesse du petit écran, peut-on toujours lui prédire un aussi bel avenir? Premier texte d'une série qui se poursuivra au cours des prochaines semaines. Février 2003. La journaliste et chroniqueuse télé Thérèse Parisien suit avec attention sur son petit écran, comme des centaines de milliers d'autres Québécois, l'arrivée de Wilfred Leboutillier, Marie-Hélène Thibert et leurs autres compagnons à l'Académie de Sainte-Adèle. Les 14 candidats découvrent alors en direct l'endroit où ils suivront pendant plusieurs semaines des cours de chant, de danse ou de théâtre pour devenir des artistes à part entière. Mais ils découvrent aussi et surtout le nouvel environnement dans lequel ils vont vivre et être filmés 24 heures sur 24, du jamais vu au Québec. Je suivais déjà ce qu'il se faisait ailleurs, en France notamment, et je me disais bien que la télé-réalité allait arriver au Québec, mais ça nous a vraiment frappé d'un coup, et pas qu'un peu, se souvient Thérèse Parisien. Cette année-là, ce sont trois grosses productions, adaptées pour certaines de concepts étrangers, qui ont atterri dans la grille horaire télé. Star Academy a lancé le bal durant l'hiver 2003, Love Story et Occupation double ont suivi durant l'automne. Certes, on avait connu Pignon sur rue au milieu des années 1990 et Mixmania en 2002, mais ce n'était que les prémices de la télé-réalité de masse. En 2003, on se retrouve avec ce nouveau format, basé sur le principe expérimental d'enfermement. On prend des gens ordinaires, on les met en cage en quelque sorte, on braque les caméras sur eux et on regarde ce qu'il se passe, explique le spécialiste de la télévision Pierre Barrette, aussi professeur et directeur de l'École des médias à l'UQAM. À l'époque, le concept créait un buzz en Europe, mais Thérèse Parisien ne pensait pas qu'il s'imposerait pour de bon. Je pensais vraiment que ce serait une vague, un souffle de renouveau pour la télé québécoise, mais que ça ne survivrait pas longtemps. De toute évidence, je me suis trompé, lance-t-elle en riant. 20 ans plus tard, force est de constater que le genre télévisuel s'est bel et bien enraciné. Des émissions comme Star Academy et Occupation double sont encore au programme, quelque peu retouchées après une pause, et attirent toujours autant les téléspectateurs. Mais de multiples nouveaux formats ont également fait leur apparition au fil des années. Sans trop de surprises, les téléréalités amoureuses ont particulièrement la cote et semblent être un concept inépuisable. Pensons à L'île de l'amour, 5 gars pour moi, L'amour est dans le pré, Si on s'aimait, ou encore Cœur de trucker. Des personnalités publiques embarquent désormais dans l'aventure avec des émissions comme Big Brother Célébrité. Les télécrochets tels que La Voix ou Révolution se multiplient aussi à vue d'œil, et c'est sans parler des formats d'aventure qui feront aussi leur apparition en 2023, soit Sortez-moi d'ici et Survivor. La télé-réalité a ainsi réinventé les codes du petit écran avec des concepts qui se déclinent à l'infini. Elle rassemble encore les gens devant leur télé, malgré sa mort annoncée depuis des années. Elle génère de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels qui en parlent aujourd'hui plus que jamais. Vous écoutez « Télé-réalité, un amour impossible au Québec », un texte de Annabelle Caillot paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir. Amour-haine. Au début, rien ne prédestinait la télé-réalité à un avenir aussi radieux. Dès son arrivée à l'écran, elle génère de toutes parts de vives critiques. Une large frange de la population la qualifie de télépoubelle. On crie au voyeurisme et à l'exploitation d'êtres humains par les grosses productions. On juge avec dédain le fait de suivre le quotidien ennuyeux de personnes ordinaires. Il y avait vraiment un dégoût, de la haine, du rejet pour la télé-réalité. C'était pas digne de s'y intéresser, explique Pierre Barrette. Pourtant, dit-il, avec des cotes d'écoute de 1,3 à 1,8 million, ce qui est beaucoup au Québec, ça signifie que les gens en écoutaient, mais avaient honte de le dire. Et ceux qui l'avouaient assuraient regarder la télé-réalité au second degré, c'est-à-dire pour en rire, tourner ça au ridicule et se vider le cerveau, poursuit le professeur. Thérèse Parisien le reconnaît. Longtemps, j'ai eu du mal à dire que j'aimais vraiment ça. Tu sais, as-tu déjà avoué que t'aimes écouter la discussion du couple à côté de toi au restaurant? C'est super divertissant, mais c'est pas chic de le faire. Tu te sens coupable, alors tu le dis pas, donne-t-elle en exemple. Bien sûr, elle en parlait parfois dans le cadre de son travail, généralement en regardant ça de haut. Chaque fois, des auditeurs lui écrivaient pour exprimer leur mécontentement et leur incompréhension de voir un tel sujet bas de gamme être traité dans les médias. La télé-réalité a bouleversé plein de codes télévisuels. Tout le monde a été saisi, autant les chroniqueurs, l'industrie de la télévision que le public. Comme média, on ne savait pas trop comment l'analyser, comment en parler, ni même comment la définir, surtout en voyant les vives critiques dans la société, se souvient de son côté le directeur adjoint à l'information au Devoir, Paul Cochon, qui était chroniqueur télé et médias au début des années 2000. Comme beaucoup, il a adopté une posture quelque peu condescendante envers ses émissions. 2003 passera à l'histoire comme l'année où tous les mythes sur la télévision québécoise se sont écroulés. Oui, notre télévision peut être aussi débile et ridicule que dans d'autres pays. Non, nous ne sommes pas immunisés contre la bêtise, écrivait-il en novembre 2003. J'ai parfois été dur, admet-il. Je ne peux pas dire que depuis je suis devenu fan, mais clairement, la télé-réalité a gagné. Ça s'est incrustée dans le paysage, on ne peut pas ignorer un tel phénomène. Selon le professeur Barrett, un changement s'est opéré dans les dernières années, le public avouant plus facilement, sans honte, aimer et être diverti par ce genre télévisuel. C'est tellement ancré que c'est devenu normal et populaire d'aimer ça. Les gens veulent donner leur opinion, avoir un esprit critique sur les émissions, participer aux discussions que ça génère sur les réseaux sociaux, note-t-il. Le fait que des personnalités publiques embarquent dans certaines aventures, comme Big Brother Célébrité, et que d'autres affirment dans l'espace public aimer la télé-réalité au même titre que des séries, par exemple, ajoute nécessairement une couche de légitimité. Il y avait vraiment un dégoût, de la haine, du rejet pour la télé-réalité. C'était pas digne de s'y intéresser. Pierre Barrett. De l'avis de Paul Cochon, cette plus grande acceptation découle aussi d'une meilleure compréhension du genre télévisuel. On comprend mieux maintenant que c'est davantage un jeu qu'une sorte d'expérience psychologique. Il y a des règles, des codes, des stratégies qu'on a intégrées. On comprend mieux que c'est souvent scénarisé par le choix des plans de caméra, le montage, etc. Ça raconte une histoire. Encore un bel avenir? Si la télé-réalité semble être là pour de bon, elle n'est pas à l'abri d'une lassitude de la part des auditeurs. Le danger, c'est que ça devienne trop prévisible, surtout dans les télé-réalités amoureuses, où l'on risque de ne plus y croire. On se dit déjà que les gens cherchent surtout à mousser leur popularité. Laisse tomber Thérèse Parisien. Les productions vont devoir travailler fort, dit-elle, pour continuer de nous surprendre, mais surtout pour ramener l'ingrédient magique des débuts, l'authenticité. Il faut que ce soit proche de nous, on veut se reconnaître dans notre télé, affirme-t-elle. C'était « Télé-réalité, un amour impossible au Québec », un texte de Annabelle Caillou, paru le 21 janvier 2023 dans « Le Devoir ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Suzanne Beauchamp et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.